Frères et sœurs, les amis, nous sommes dans la continuité absolue de l'évangile de dimanche dernier sur la parabole du semeur et de la qualité du terrain. Vous vous en souvenez, je l'espère. Nous nous retrouvons donc dans ce champ que son propriétaire a ensemencé. La présente parabole, je ne reviens pas sur la signification d'une parabole que j'ai donnée dimanche dernier, fait intervenir un ennemi qui sème nuitamment au milieu du blé une mauvaise herbe qui risque bien évidemment d'étouffer la récolte du bon grain. Le traducteur l'appelle ivraie, en grec « zizanion », qui a donné le mot « zizanie ». C'est assez facile à comprendre, et cela nous redit combien notre langue française a des racines latines et grecques. Alors qu'il était bien difficile de changer la nature du terrain, nous l'avons bien saisi dimanche dernier, il paraît davantage possible d'intervenir pour supprimer le parasite. Mais l'histoire de cette parabole nous dit que le propriétaire s'y oppose. Alors, c'est assez simple, il y a deux leçons à tirer de cette parabole. La première, c'est un début de réponse au problème sans cesse récurrent que se pose la nature humaine, à savoir le problème de l'origine du mal. Alors, redisons, s'il en était encore besoin, que ce n'est pas Dieu qui le crée, qui va créer le mal, tout comme ce n'est pas le maître de maison qui a semé l'ivraie. Le récit de la création, sur lequel une fois de plus nous sommes renvoyés, les deux premiers chapitres de la Genèse, qui nous rapportent l'ensemble de la structure de la création, y insister. À chaque fois, je vous l'ai maintes fois dit, le verset ou les versets se terminent et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu ne crée pas le mal, il n'est pas à l'origine du mal. On trouve ça également dans d'autres textes de l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Job, qui était invité, vous le savez, à accepter de ne pas tout comprendre et à faire confiance à Dieu par rapport à tout le mal qui lui est arrivé, ainsi qu'à sa famille. Bon, je pense que tout cela est bien clair pour chacun de vous. Et la deuxième leçon à tirer de cette parabole, c'est tout simplement au maître de la moisson de faire le tri. Pas à quelqu'un d'autre. Et de faire le tri quand il le jugera bon. C'est à Dieu et à personne d'autre qu'il revient de déraciner le mal. « Qui es-tu, nous dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ?» Jésus donc nous invite à accepter comme notre condition de créature ce mélange permanent de bien et de mal. Mais l'histoire nous rapporte qu'un jour viendra pourtant où le maître de la moisson dira que l'heure a sonné de procéder au tri. Jésus reprend là tout simplement dans l'explication qu'il donne à ses disciples le style d'une comparaison d'une image traditionnelle du thème du jugement dans toute la Bible. Vous savez que ce thème du jugement, bien sûr, est très présent et il est toujours présenté comme une division en deux camps. On dirait aujourd'hui le camp du bien et le camp du mal. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Bien sûr, mais attention de ne pas nous y tromper. Personne ne peut se vanter d'être entièrement bon, comme personne ne peut se vanter d'être entièrement mauvais. La frontière, si je peux m'exprimer ainsi, entre le bien et le mal, se trouve en nous. Bien sûr, elle est en réalité en chacun de nous. Nous sommes des êtres partagés. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. C'est une condition qu'il faut évidemment accepter. Alors, vous me direz que nous restons un petit peu sur notre faim, en se posant la question comment comprendre concrètement et comment concilier ce qui est promis aux méchants et la récompense qui est promise aux bons, si nous sommes à la fois chacun de nous bon et pas bon. Voilà. Eh bien, nous trouvons une réponse dans le psaume 1 avec une image: le bon grain sera moissonné et le mal sera tout simplement emporté par le vent. Et Jésus va traduire de la manière suivante: le maître de la moisson, qui ne peut supporter de voir déraciner le moindre épi, puisque vous avez entendu dans la parabole, il interdit d'arracher l'ivraie de peur qu'on arrache en même temps l'épi de blé. Il ne peut pas supporter ça, de déraciner le moindre épi de blé avec l'ivraie, et ne pourra donc pas condamner en nous le bien avec le mal. C'est-à-dire, Dieu sait très bien, très très bien, à la limite, il a déjà fait son choix en lui-même, il sait très bien tout ce qu'il y a de bien en nous, et il ne peut pas condamner, j'allais dire, le bien avec le mal. Ça, c'est une affaire bien claire pour chacun. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons accepter notre condition où nous portons en nous du bien et du mal sans avoir à lutter, bien évidemment, contre tout ce qui peut être livré en chacun de nos cœurs. Et il me revient que lorsque je tentais d'expliquer cette parabole ou cette histoire aux enfants à l'école, je leur disais tout simplement qu'il y aura toujours du bon grain et de l'ivraie dans un champ. Je me souviens quand j'étais petit, malheureusement aujourd'hui on n'en trouve plus, au milieu du champ du blé, il y avait des bleuets. Bon, les bleuets ont disparu parce que certainement il y a dû y avoir une sélection drastique des grains de blé à ensemencer, et on n'arrachait pas, je me souviens, nos parents nous interdisaient d'arracher le pied du bleuet, on coupait simplement la fleur, parce que le bleu du bleuet était très joli. Donc tout simplement, en expliquant cela aux enfants, je leur disais, eh bien, l'essentiel, c'est que le bon grain, à savoir le blé, fasse de l'ombre à l'ivraie et soit toujours l'épi le plus haut, hein, pour empêcher le bleuet de tout étouffer. Voilà. Alors, frères et sœurs, pouvons prendre le temps de relire cette parabole qui est en définitive très concrète et qui nous invite à un examen de conscience que nous allons faire tous les jours pour bien voir en nous, un, ce combat entre ce qu'il peut y avoir de bien et de moins bien en nous, et de tenter de lutter pour que le Seigneur nous trouve prêts à ce qu'il puisse faire le tri lui-même. Amen.